Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Quello che i cittadini italiani ci hanno chiesto di fare con il loro voto non è redistribuire i migranti illegali che arrivano in Europa, è impedire le partenze degli immigranti illegali che arrivano in Europa.
Bonjour, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, au Parlement il y a quelques jours, déclarant que sa politique ne consiste pas à répartir les migrants, mais à arrêter les arrivées illégales. Une posture politique bien difficile à faire coïncider avec la réalité. L'an dernier, les arrivées ont bondi de 83% dans les pays du Sud, proches de la Méditerranée. Et depuis le début de l'année, 11 000 migrants ont rejoint l'Italie par mer ou voie terrestre. Giorgia Meloni, qui se voudrait leader d'une Europe de la fermeté sur ses frontières, mais dans les faits, son pays a su aussi développer des modèles d'accueil très novateurs. Ce qu'en italien on appelle littéralement l'accueil diffus, l'accueil dans des petites structures à taille humaine, des appartements pour une meilleure autonomie et reconstruction, près de la frontière des Balkans. La ville de Trieste est un modèle du genre. Reportage signé Cécile Debarge.
C'est une scène qui, dans un autre contexte, serait banale. Pour rencontrer Abdoul, Ousmane ou Chaïk, il suffit de franchir le seuil d'un grand immeuble et frapper à la porte de l'appartement du troisième étage. Un détail près, Abdoul, Ousmane, Chaïk et leurs trois colocataires sont demandeurs d'asile. Et ce spacieux appartement du centre de Trieste est le lieu où ils sont accueillis grâce à l'ICS, le consortium italien de solidarité, qui les prend en charge.
Abdoul, t'as fini de manger ? Abdoul ! T'as fini de manger ? Allez, on nettoie, merci. Tu retournes travailler, tu vas travailler maintenant.
Alessia est travailleuse sociale. C'est elle qui suit les 6 jeunes hommes hébergés dans cet appartement. Ousmane est l'un d'eux. Arrivé en Italie lorsqu'il était mineur, il espère travailler dans un garage d'ici quelques mois.
J'ai commencé à apprendre l'italien dans mon premier centre d'accueil. Ensuite, petit à petit, j'ai été inscrit dans un centre de formation et j'ai commencé un cours de mécanique. Ça fait déjà 3 ans et là, je suis en 4e année.
Avec cet accueil en appartement, c'est aussi la promesse d'un suivi plus individualisé pour les demandeurs d'asile. Hassan Farez a 21 ans, il est originaire de la province de Gujarat au Pakistan. Il le sait, cet accueil individuel est loin d'être la norme ailleurs.
Normalement, on va dans un premier type de centre d'accueil et il y a beaucoup trop de monde. On n'est pas traité de la même manière qu'ici. J'ai été accueilli dans des dortoirs aussi. On ne vous permet pas de partager une maison comme ici. Ce n'est pas possible d'entrer tout de suite dans un appartement. Ça demande du temps. Ce n'est pas facile.
Il lui aura fallu 6 mois avant de rejoindre l'appartement où il vit désormais.
Tous les jours, je vais à l'école et j'apprends beaucoup de choses. Donc pour l'instant, je ne travaille pas encore.
Simona Lacava est travailleuse sociale au sein de l'ICS depuis 7 ans. Elle coordonne le groupe de travail de la rue Corridoni, où se trouvent plusieurs appartements.
Le défi de notre association a toujours été de proposer un modèle différent, plus sain. Avant tout pour les personnes accueillies qui doivent recommencer leur vie. Et la recommencer dans un centre d'accueil avec 500 personnes, ce n'est pas la même chose que de partager un appartement avec 4 ou 5 autres personnes.
Cette solution d'accueil a aussi le mérite de répartir les demandeurs d'asile plus équitablement dans tous les quartiers de la ville, ce qui donne parfois lieu à de jolies histoires de voisinage.
Je peux donner l'exemple de cette famille à côté de l'université qui a une magnifique relation avec sa voisine. Elle s'offre des cadeaux. C'est une mère célibataire avec 3 enfants. Et cette femme a tout de suite noué une grande complicité avec sa voisine. Et elle a vraiment fait l'effort de savoir qui étaient les personnes qui vivaient à côté de chez elle.
Bien sûr, il existe parfois des querelles entre voisins, des portes qui claquent trop fort, du bruit. Mais 90% du temps, la cohabitation au sein des immeubles est pacifique, assure Simona Lacava. Aujourd'hui, la ville de Trieste dispose d'environ 1 millier de places d'accueil pour les demandeurs d'asile. Un chiffre important qui s'explique par la position stratégique de la ville à la porte des Balkans. Gianfranco Schiavone est le président de l'ICS. Il se rappelle des premières arrivées de migrants en 1993 dans la foulée du conflit en ex-Yougoslavie.
Il n'y a jamais eu une période au cours de laquelle on n'avait aucune arrivée et donc le système a grossi tout doucement. Tous les ans, on ouvrait de nouvelles structures pour l'accueil.
Mais c'est 20 ans plus tard que le système d'accueil se renforce.
Nous avons dû monter en puissance rapidement depuis 2013 pour arriver aux milliers de places d'accueil disponibles aujourd'hui. Notre objectif en 2024, c'est d'ajouter encore entre 100 et 150 places d'accueil diffus. Mais ensuite, on aimerait ne pas en ajouter d'autres, parce que notre travail, c'est aussi l'intégration sociale des personnes. Il faut donc leur trouver des opportunités pour rester à Trieste et s'intégrer.
En Italie, l'État fixe un budget maximal par jour et par personne pour la prise en charge des demandeurs d'asile. Ce chiffre ne cesse de baisser ces dernières années et rend toujours plus difficile la survie de systèmes d'accueil vertueux comme l'accueil diffus. À Trieste, le modèle résiste et continue de se développer. Deux grands centres de premier accueil sont toujours ouverts à deux pas de la frontière avec la Slovénie. Il existe ensuite 5 structures collectives de petite taille et 181 appartements qui permettent l'accueil diffus.
La Pologne, voisine de l'Ukraine, qui multiplie les mesures pour se protéger d'une éventuelle offensive russe sur son territoire. Les effectifs de son armée vont doubler et le maire de Varsovie entend protéger les habitants de la capitale d'une possible attaque aérienne. Et pour cela, il veut réhabiliter les abris. Bonjour Adrien Sarla, vous êtes un de nos correspondants à Varsovie. On peut dire aujourd'hui que le pays est particulièrement vulnérable sur ce terrain.
En effet, seuls 903 abris anti-aériens sont disséminés sur tout le territoire polonais. Et si le pays était attaqué, eh bien seuls 4% de la population nationale pourrait y trouver refuge aujourd'hui. Ce constat a été rendu possible par l'état-major des pompiers de Varsovie, qui a recensé tous les abris du pays dans une application destinée aux citoyens. Un constat alarmant donc, alors qu'à la fin de la guerre froide, la capacité de protection du pays était bien meilleure, comme l'explique le colonel Michał Koszynski.
Les abris ont été transformés en habitations, en caves, en garages, car les gens commençaient à se sentir en sécurité et ça n'était plus rentable de maintenir les abris fonctionnels. Les gens ont voulu l'adapter et en tirer parti autrement.
Et c'est pour reconstruire de nouveaux abris et réhabiliter les anciens que le maire de Varsovie a lancé un programme ambitieux intitulé Varsovie Protège. Mais en quoi cela consiste-t-il vraiment ?
Varsovie Protège, ce sont 117 millions de zloty, soit 27 millions d'euros, que le maire Rafał Trzaskowski a promis d'investir dans de nouveaux refuges dotés de connexions électriques ou d'accès à l'eau par exemple. Il a aussi mentionné l'organisation d'exercices de situation d'urgence pour les Varsoviens.
Des abris en tant que tels, il n'y en a pas tant que ça. Mais on a le métro, on a énormément de parkings souterrains. On a 7 millions de mètres carrés qu'on a identifiés comme de potentiels abris à Varsovie.
Mais il faut garder en tête que ces annonces sont faites à 2 semaines des élections municipales où Rafał Trzaskowski est candidat à sa propre réélection à la tête de Varsovie.
Oui Frédéric, c'est important de préciser qu'en réalité, eh bien, le maire est en pleine campagne électorale et ces annonces ne sont pas pour l'instant réalisables dans la mesure où aucune loi ne précise qui est responsable de la protection des civils en Pologne. Mais pour Trzaskowski, c'est un très bon argument de communication, car Varsovie a été complètement rasée par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, et la question des abris anti-aériens occupe donc une très grande place dans la mémoire collective polonaise. Précisons tout de même qu'à l'échelle de la Pologne, la région de Varsovie et le sud du pays restent les mieux dotés en abris anti-aériens, alors que la situation est bien plus alarmante dans les régions agricoles, à l'est, près des frontières ukrainiennes et biélorusses.
Merci beaucoup Adrien Sarla à Varsovie. «
ça bouge sur la scène politique hongroise. Voilà 13 ans que le Premier ministre Viktor Orban dirige le gouvernement en ayant peu à peu étouffé toute forme d'opposition. Cette fois, il est défié par un ancien cadre de son propre parti, le Fidesz. Peter Madiar vient de fonder un nouveau parti, Debout Hongrois, qu'il souhaite transformer en parti centriste. À 43 ans, Anastasia Bekio, on peut dire qu'il s'est hissé en quelques semaines à peine sur le devant de la scène hongroise.
Oui, alors qu'il était quasi inconnu du grand public, Peter Madiar est aujourd'hui suivi par une nuée de caméras. Avocat, haut fonctionnaire, membre du parti de Viktor Orban, le jeune technocrate à l'allure sportive, tiré à quatre épingles, s'est mué en homme politique et multiplie les déclarations critiques contre la classe dirigeante.
La majorité des Hongrois ont perdu confiance dans l'ensemble de l'élite politique qui dirige le pays depuis 30 ans.
Peter Madiar, le 15 mars dernier sur une scène en plein cœur de Budapest devant une foule imposante. Matthias Cohen est chroniqueur au Mandiner, un site d'information conservateur proche du pouvoir.
Il est en quelque sorte un outsider de la politique, tout en étant également un homme du sérail. Il a toujours été proche de la politique, du moins au cours des 10 dernières années. Il a été diplomate, il a représenté la Hongrie auprès de l'Union européenne à Bruxelles, mais il n'a jamais joué de rôle politique direct.
Et le public a commencé à entendre parler de Peter Madiar le mois dernier dans la foulée d'un scandale impliquant son ex-épouse, l'ancienne ministre de la Justice.
Un scandale né de la grâce accordée à un complice d'un pédocriminel par la présidente. L'affaire rendue publique, elle a démissionné. Quant à Judith Varga, qui avait quitté le ministère de la Justice pour mener la campagne des européennes, elle s'est mise en retrait de la vie publique. Peter Madiar s'insurge alors contre ce qu'il présente comme un lâchage brutal des deux femmes les plus influentes du pays. En signe de protestation, il démissionne des entreprises publiques où il occupait des postes de direction et accorde une interview à Partisan, un des rares médias indépendants, une chaîne à laquelle collabore le politologue Botton Feledi.
En 48 heures, cette interview a été regardée plus que 2 millions de fois. C'est presque la moitié de ceux qui participent aux élections en Hongrie. C'est vraiment cette interview qui a déclenché la coulée des petites histoires qui viennent derrière le rideau du système. Alors, il essaie de raconter comment ça marche dans son interprétation, comment les décisions sont faites et ça dresse une image politique très rude et à la fois très malin.
Ce commentateur, Anastasia, qualifie Peter Madiar de très malin. Quelles sont ses chances sur la scène politique hongroise ?
Il est aujourd'hui l'une des figures les plus en vue. Ses révélations tiennent le pays en haleine. Son ascension est rapide. Selon un sondage Index, il est crédité de 13% d'intention de vote chez les électeurs qui le connaissent. Se définissant comme conservateur de droite qui ne supporte plus de voir les dirigeants piller et détruire le pays, il attire pour l'instant plus d'électeurs de la gauche que de déçus du Fidesz. Mais avec sa notoriété grandissante, il fait aussi l'objet d'attaques personnelles. La presse d'opposition a révélé son implication présumée dans une affaire de violence domestique, manipulation politique ou faits avérés. Quoi qu'il en soit, il va devoir apprendre à gérer ses attaques personnelles. Et Peter Madiar a déjà promis de nouvelles révélations dans les jours à venir dans une grande affaire de corruption qui touche plusieurs hauts responsables hongrois.
L'Européen de la semaine, signé Anastasia Bekio. C'est la seule capitale divisée au monde. Nicosie, à Chypre, est formellement coupée en deux depuis 50 ans. Au nord, la communauté chypriote turque. Au sud, la communauté chypriote grecque. Et au milieu, une ligne verte, une zone tampon et des checkpoints qui permettent de circuler d'un point à l'autre de la ville en montrant une pièce d'identité. Voilà pour la situation sur le papier. Dans le quotidien, comment se vit cette partition toujours douloureuse et sans solution politique? C'est le reportage à Nicosie de Joël Bronner.
Ici, une rue se termine brusquement en impasse artificielle, marquée par la présence intimidante de barbelés. Là, un panneau des Nations Unies restreint le passage. Un peu plus loin, un écriteau vieillissant avertit en plusieurs langues « zone interdite, ne pas approcher ». Depuis 20 ans, des checkpoints permettent toutefois de circuler d'un côté à l'autre de la ville de Nicosie, et donc de l'île de Chypre. À l'image de ces chypriotes grecs francophones, certains refusent pourtant catégoriquement, aujourd'hui encore, de mettre les pieds de l'autre côté.
De l'autre côté, côté occupé ? Non, je refuse. Je refuse de montrer mon passeport à des occupants afin de pouvoir visiter mon pays.
Moi, personnellement, je refuse d'y aller parce que je ne veux pas présenter de passeport. Je trouve que c'est aberrant dans mon pays de présenter mon passeport pour passer dans la zone occupée.
1974. Un coup d'État à Chypre, téléguidé depuis la Grèce, donne l'occasion à la Turquie d'envahir la partie nord de l'île au motif de la protection de la minorité turcophone. Depuis lors, à l'image de l'île, la capitale Nicosie est formellement coupée en deux, grec au sud, turc au nord. Apparue dès les années 60 lors de violences intercommunautaires, une ligne verte sépare toujours les deux entités en formant une zone tampon militarisée. Evgenia Chamillou, avocate de 25 ans, préside un mouvement de jeunesse en faveur, entre autres, d'une réunification de l'île.
Là, en fait, nous parlons depuis la zone tampon des Nations Unies. Le café où nous nous trouvons, la maison de la coopération, est le seul espace où on peut venir prendre un verre sans avoir besoin de montrer son passeport, contrairement au reste de la ligne verte, où il faut montrer une pièce d'identité pour traverser, comme si on passait d'un pays à un autre, comme si on allait à l'étranger. Or, ce n'est pas notre vision des choses et ce n'est tout simplement pas la réalité. Nous sommes une seule et même île. C'est parfois difficile de militer en ce sens. Il y a beaucoup de séquelles. Si vous traversez, certains peuvent vous le reprocher et vous qualifier de traître. Le simple fait de rencontrer quelqu'un qui vient de l'autre côté peut être considéré comme quelque chose de politique.
Pour le visiteur de passage, passer à pied d'un côté à l'autre de Nicosie, avec changement de langue, de monnaie, de religion et de drapeau, est une simple formalité de quelques secondes, un brin exotique, qui implique de montrer son passeport deux fois, et du côté turc et du côté grec. Pour les habitants de Nicosie, cette séparation est en revanche une cicatrice douloureuse. Marina Kyriakou, architecte urbaniste.
Le problème le plus grand, c'est que cette séparation, elle est en même temps social et spatial. Et l'espace public, il est très complexe parce qu'il y a partout des cul-de-sac, des stops. Il y a des ruptures partout. Donc c'est assez spécial. Et je trouve ça intéressant d'un point de vue architectural ou urbain. C'est intéressant d'étudier ça et d'étudier comment ça influence la psychologie des gens parce que ça provoque une sorte d'instabilité ou inquiétude ou je sais pas quoi. Donc oui, ça peut être intéressant, mais vivre ça tout le temps et tous les jours, c'est pas super.
En l'absence de perspective d'accord politique intercommunautaire, cette division pas super risque fort pourtant de rester la norme encore longtemps, tant la situation semble gelée entre la République de Chypre et la République turque de Chypre du Nord, réalité politique reconnue uniquement par Ankara, dont le drapeau géant illumine chaque soir le massif du Pentadactylos qui domine Nicosie. Rita Severis dirige le CVAR, centre culturel qu'elle a fondé.
Le centre d'art visuel et de recherche se situe au cœur de la vieille ville de Nicosie, tout près de la ligne verte, cette ligne qui divise le nord et le sud de Nicosie. Nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres. C'est délibérément que j'ai choisi cette position géographique parce que j'avais un espoir. Celui qu'un jour, cette ligne disparaisse et que je me retrouve alors tout aussi proche de la communauté turque que je ne le suis de la communauté grecque. Malheureusement, ça fait 10 ans que le centre a ouvert et la ligne verte est toujours là. Mais l'espoir fait vivre, que voulez-vous ?
Ah, hope dies last.
Au quotidien, plusieurs milliers de Chypriotes turcs du nord de Nicosie franchissent la ligne verte pour aller travailler au sud de la ville, là où l'économie est plus solide et plus stable, tandis que certains Chypriotes grecs traversent cette même ligne verte pour profiter, par exemple, des prix plus bas de l'essence, des cigarettes ou des vêtements. Une ligne verte, comme la couleur du stylo du général britannique qu'il a tracé pour la première fois sur une carte. Une ligne verte qui, à Nicosie divisée, semble encore pour l'heure tout à fait indélébile.
Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, sur l'application Pure Radio et les réseaux sociaux. À demain.